10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Bonjour Olivier Faure.
Bonjour Mickaël Darmon.
Dans la salle du bureau national du nouveau siège du Parti Socialiste à Ivry, trois fresques tapissent les murs. Une a pour nom le naufrage, l'autre a pour nom l'Odyssée et la dernière l'Agora. C'est le résumé en quelque sorte de votre feuille de route à la tête du PS. Comment passer de l'état de parti naufragé à celui de rassembleur et le voyage, l'Odyssée, est bien sûr tourmenté. Alors que l'on arrive à mi-mandat, comment faire oublier la bérésina de la présidentielle et la défaite des européennes? Le PS était le parti de la transformation sociale, mais le voilà en train de courir après un monde qui change à toute vitesse et sans lui. Quelles idées sur les nouvelles formes de travail bouleversées par la vie numérique, sur les moyens de préserver une cohésion nationale mise à l'épreuve? Que peuvent les socialistes face à cette internationale populiste qui séduit de plus en plus les classes populaires que jadis votre parti défendait? Le PS a de nouveau rendez-vous avec les urnes en mars prochain pour les élections municipales, mais pour l'instant aussi, à l'étage des vétérans, on s'active pour la présidentielle. Vous nous direz ce que vous en pensez. On vous dit secret, habile, manœuvrier, abattant vos cartes à la dernière minute, ce matin, et en paraphrasant votre héros Jaurès, vous allez nommer la vérité. Et pour vous interroger, Nicolas Barré des Échos et Damien Fleureau de CNews qui ouvre ce grand rendez-vous.
Bonjour messieurs.
Bonjour Olivier Faure. On arrive à mi-mandat du quinquennat d'Emmanuel Macron et les sondages montrent que pour l'instant, le président de la République garde un socle plutôt solide de soutien autour de 35% selon un sondage IFOP fiducial pour CNews. Vous dites tout de même... Le président de la République a échoué.
Je dis que le président de la République n'a pas été conforme, y compris à la promesse qu'il a faite aux Français d'entrer dans un nouveau monde, c'était ce qu'il nous a dit. Et en réalité, il est le vestige de l'ancien régime. Il est celui qui, finalement, a accompli ce que la droite n'avait pas accompli avant lui. Et on le voit, semaine après semaine, mois après mois, les réformes qu'il suggère au pays... qu'il veut imposer au pays sont des réformes qu'en réalité
ni Alain Juppé ne pourrait sûr d'en renier. Ce socle autour de 30-35% de soutien reste solide et même s'il faiblit légèrement.
Je ne vois pas très bien de quoi on parle parce qu'en réalité, ce que j'observe, c'est qu'au moment des élections européennes, ce n'était pas 30-35%, mais c'était plutôt 20%. Il y a un socle de premier tour pour Emmanuel Macron, mais c'est un parti de premier tour qui n'a absolument aucun soutien au-delà de ces 20% et qui, en réalité, est un parti très affaibli après 2 ans et demi de mandat.
Nicolas Barré.
Oui, Mickaël évoquait le naufrage du Parti Socialiste. Et effectivement, quand on demande aux Français qui ferait mieux qu'Emmanuel Macron, on trouve Marine Le Pen, d'après ses sondages, 27%. On trouve Nicolas Sarkozy, 22%. Jean-Luc Mélenchon, 17%. Et seuls 6% des Français estiment que vous feriez mieux. Un score, en gros, qui n'a pas bougé depuis la présidentielle. Comment est-ce qu'on se relève de ça?
Eh bien, on travaille. On travaille semaine après semaine. On est d'abord modeste, on accepte l'idée que nous avons déçu et nous avons nous-mêmes été parfois déçus par notre propre action. Et puis, on fait en sorte, effectivement, de relever le gant. Ça veut dire quoi, relever le gant? Ça veut dire semaine après semaine, depuis 1 an et demi, je parcours ce pays, je vais à la rencontre des Français, je suis dans les services des urgences, je suis avec les livreurs de Deliveroo, je suis avec j'étais vendredi à Fos-sur-Mer avec le maire qui se bat pour que, en fait... sa ville ne soit pas la ville qui, malheureusement, bat ce record de cancer parce qu'elle est à proximité.
Pour constater à quel point vous êtes à côté de la plaque, à quel point on ne veut plus entendre parler de vous. Qu'est-ce que vous voulez constater?
Ce que je constate, c'est que les réponses qui sont aujourd'hui attendues sont des réponses qui relèvent de ce que la social-démocratie a apporté depuis un siècle. Maintenant, c'est vrai que nous sommes discrédités, nous avons été disqualifiés et que la confiance a disparu. Ça, c'est vrai. Mais en revanche, les réponses, la nature des réponses que les Français attendent, la réalité, c'est qu'elles sont quasiment à chaque fois des réponses qui sont à prélever, à aller chercher dans ce qu'est l'ADN de la gauche.
L'automne et l'hiver s'annoncent avec des blocages, en tout cas sur les réformes des retraites, de la part des syndicats. Et pendant ce temps-là, vous l'avez juste évoqué, vous invitez effectivement des livreurs de plateformes commerciales par Internet à venir témoigner devant le bureau national. C'est la nouvelle méthode d'Olivier Faure. Vous avez besoin d'inviter des acteurs de l'économie réelle pour comprendre ce qui se passe?
Mais je crois que justement, on parlait d'Emmanuel Macron, ce qui lui manque, c'est cette connaissance intime de ce pays. Parce que moi, je veux bien qu'on explique à tout le monde que tout va bien. Mais ce que j'observe, c'était je pourrais vous raconter ma semaine. J'étais même, y compris l'autre soir, dans une réunion. Je sors à minuit, je rencontre une femme sur le trottoir, 71 ans, sur le trottoir, dans la rue, à Paris. Et vous trouvez ça normal, vous ? Ben moi, je continue à considérer qu'effectivement, ça n'est pas normal. Et qu'il y a besoin, effectivement, de socialistes qui, comme depuis un siècle, ont tout fait pour que ces situations-là n'arrivent plus. Et donc, si nous avons aujourd'hui un modèle social qui est ce qu'il est, vous le devez à qui ? Vous pensez que tout ça est venu du ciel ?
Non, justement, qui faut-il défendre aujourd'hui ? Faut-il défendre, pour vous, les cheminots qui font grève sans préavis le premier jour des vacances, ou ces employés des plateformes Internet qui sont corvéables à merci ? Qui, aujourd'hui, faut-il défendre ?
Il faut défendre à la fois la sécurité s'agissant de la SNCF, et il faut défendre effectivement le fait que ces salariés sont aujourd'hui des tâcherons. Je parle des livreurs qui, aujourd'hui, pour 2,50 euros, font une
tâcherons.
Course. Oui, tâcherons, travaillent à la tâche. C'est-à-dire que ce n'est pas, la nouvelle économie, c'est l'ancienne économie, c'est avant le salariat. On est revenu à une époque où, effectivement, vous avez des hommes, enfin, je pourrais vous raconter dans le détail la façon dont ils sont traités. Ce sont des gens qui dépendent d'une plateforme qui, quand le lundi matin, ils se lèvent, en fonction de leur classement, ils ont le droit de choisir leur course, soit le matin, soit à midi, soit à 15h. Et qu'est-ce qui leur arrive ? C'est-à-dire que pour être bien classé, il faut pouvoir répondre à des critères. Parmi ces critères, il y a le fait, par exemple, de travailler le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais enfin, de quoi parle-t-on ? On est en train de parler de gens qui sont en train de vivre avec, finalement, une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête.
Donc vous demandez une requalification de leur statut ?
Mais je pense que la moindre des choses, ce serait aujourd'hui, effectivement, de considérer que parce qu'ils sont totalement dépendants des plateformes, eh bien, ils sont des salariés. Aujourd'hui, ils n'ont pas droit au congé payé. Ils ont une assurance accident, mais enfin, on me racontait cette histoire incroyable.
On va y revenir, mais plus global. Mais Nicolas Barré, sur la situation de l'emploi, justement.
Globalement, malgré tout, la situation de l'emploi s'améliore. On a vu les derniers chiffres qui sont sortis en fin de semaine avec 2,4% de chômeurs en moins. C'est le quatrième trimestre de suite de baisse. Est-ce que, d'une certaine façon, vous admettez l'idée que la réforme du marché du travail que vous aviez combattue porte ses fruits ?
Ah mais je ne vois pas quelles sont les traces qui permettent de dire que c'est lié à la réforme des lois
pénicaux. Le Conseil d'analyse économique, par exemple, l'a redit cette semaine, en indiquant qu'effectivement, la réforme du marché du travail avait eu cet effet positif sur l'emploi.
Mais si, Nicolas Barré, votre modèle à vous, c'est le modèle allemand ou le modèle britannique, où effectivement, vous avez
des
modèle, gens...
Il vous soumet la question.
Oui, c'est une façon de parler. Je sais bien que ce n'est pas forcément... sa pensée intime, profonde, mais enfin, si le modèle est le modèle allemand ou le modèle anglais, où vous avez effectivement des gens qui sont considérés comme sortis du chômage, mais qui sont avec des petits boulots, qui sont avec ces boulots dont je parlais à l'instant, comme à Deliveroo, comme chez un certain nombre de livreurs, ou chez Uber, etc. Est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là sont sortis d'affaires ? Moi, je ne le crois pas. Faut à la fois plus d'emplois, mais il faut un emploi de qualité.
Mais précisément, ce qu'on constate, c'est une augmentation du nombre de CDI, justement, depuis un an. On voit que le nombre de CDI progresse dans ce pays.
Mais il y a des progrès,
Donc il y a davantage d'emplois à long terme.
Il y a des progrès qui existent, parce qu'il y a aussi un certain nombre de perspectives qui permettent aux entreprises d'embaucher, et c'est très bien. Je ne vais pas ne pas me réjouir du fait que le chômage baisse. Il avait commencé à baisser pendant la fin du quinquennat de François Hollande.
Mais ça n'est pas peut-être quand même l'effet des mesures qui ont été prises sur le marché du travail, le fait qu'il y ait davantage de CDI.
Mais quelles sont les mesures qui aujourd'hui permettent de le penser ? Est-ce que vous pensez que quand on supprime des droits aux salariés, ça va mieux ? Moi, je ne crois pas que ce soit le problème. Le problème, c'est d'avoir, pour un chef d'entreprise, quand est-ce qu'il embauche ? Il embauche quand il a des perspectives, quand il pense que son carnet de commandes est rempli, non pas parce qu'il pense que les droits des salariés sont abaissés.
Justement, Damien Fleurot, sur vos solutions.
Vous défendez toujours le revenu minimum de base. On sait, le gouvernement a rejeté une expérimentation que souhaitaient certains départements français.
Oui, alors qu'il ne faut pas confondre avec le revenu universel. C'est l'idée, effectivement, de regrouper les minima et puis de pouvoir permettre d'avoir un socle qui permet aux gens, effectivement, de vivre, parce que nous sommes l'un des 7 pays les plus riches du monde et que, encore une fois, il n'est pas
et
normal d'avoir des gens
qui aujourd'hui avaient été défendus dans la campagne
par Benoît
présidentielle
Hamon, par Benoît candidat.
Ben, c'est une autre version de ce revenu universel. Ce n'est pas celui que défendait Benoît Hamon. C'est ce que les départements, il y a 13 départements aujourd'hui qui l'expérimentent parce qu'ils considèrent que c'est la meilleure façon de venir en aide aux Français qui en ont besoin. Et surtout,
et
de remettre le pied à l'étrier.
Le principe d'un chômage fort, de masse ?
Je ne souhaite pas. Moi, je souhaite au contraire que nous soyons une société de plein emploi. Mais ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est que pour pouvoir arriver à simplifier, pour pouvoir arriver à remettre le pied à l'étrier à des Français qui ont perdu pied, eh bien, il faut effectivement aller vers l'idée d'un revenu de base qui permet à chacun d'avoir ce socle qui est en réalité un socle qui ne permet pas complètement de vivre, mais qui permet de se maintenir avant de repartir. Et donc, ça doit être accompagné aussi, comme l'avait imaginé Michel Rocard en son temps, avec le RMI. C'est-à-dire qu'il faut à la fois soutenir et en même temps accompagner pour aider à la réinsertion.
Alors Olivier Faure, Chili, Liban, Bolivie, Irak, on assiste à une forme de vague de contestation planétaire ces dernières semaines, et liée justement à des contestations, des révoltes face à des politiques fiscales, des politiques publiques. Cette contestation au fond internationale, comment vous la lisez ? Vous êtes absent dans cette démarche ? Vous regardez un monde qui bouge sans vous ?
Je ne suis pas sûr que la question soit tout à fait... il bouge sans nous, il bouge sans vous, il bouge sans moi, parce que quand on parle du Chili ou de Hong Kong, ils n'ont pas toujours la vision braquée sur ce que fait la France. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que ce n'est pas simple. Ça vous dites, c'est une révolte fiscale.
On le voit au Liban.
C'est d'abord une révolte démocratique. Et si c'est une révolte fiscale, c'est parce que c'est d'abord une révolte contre les inégalités. Au Liban, vous avez 7 familles qui captent un quart de la richesse nationale. Ben, les gens trouvent que c'est pas normal et ils ont raison. Au Chili, vous avez des gens qui considèrent que c'est le problème des tarifs, des transports qui ne conviennent pas. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer et leur mobilité, c'est l'accès à l'emploi, l'accès à la santé, l'accès aux services. Ils ont raison. À Hong Kong, c'est la question de la démocratie, mais c'est aussi la question des inégalités qui se creusent. Eh bien, là aussi, vous nous dites sans vous, mais précisément, en fait, ce qu'ils revendiquent, ils revendiquent en fait ce que nous portons depuis notre origine. Parce que ce qu'ils revendiquent, c'est la démocratie et le social, la social-démocratie.
On continue à en parler dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et on retrouve Olivier Faure pour cette donc deuxième partie du grand rendez-vous. Regardez cette infographie, cette phrase d'Emmanuel Macron qui s'est donc prononcée cette semaine lorsqu'il était donc à la Réunion. Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire, c'est ça la laïcité. Alors on a résumé bien sûr pour une question d'espace. Il dit tout à fait clairement le port du voile dans les services publics à l'école, c'est mon affaire, c'est ça la laïcité. Vous êtes d'accord ?
Je trouve assez grave que le président de la République puisse dire que ce n'est pas son affaire. Parce que précisément, c'est son affaire. Il est président de la République. Ça a un sens. Et quand on est président de la République, quand on a un débat public qui s'enflamme, on doit être celui qui rappelle justement la règle, la loi, les principes. Quels sont les fondements de notre vie collective. C'est à lui de le faire. D'abord,
là, c'est ce
en priorité.
Fait. Là, il rappelle la loi.
D'abord, il le fait après beaucoup de...
Espace public et service public, ce qui sont quand même deux choses différentes. Donc, il rappelle la loi.
J'observe qu'il repousse d'année en année le grand discours qu'il est censé prononcer un jour et qui serait le discours de la clarification, de sa pensée. Parce qu'en réalité, les règles, elles existent, effectivement, et la loi, elle existe. Et les débats qui ont nourri la loi de 1905 sont des débats qui sont
très actuels. Qu'est-ce qui est plus important par rapport à la règle, au propos du président ?
Alors là, si vous parlez tout ça à la fois,
Qu'est-ce qui est plus important ? Une loi ou un discours du président ?
Mais j'aimerais que le président... Enfin, quand même, un président de la République rappelle, quand le trouble existe, il doit être celui qui rappelle solennellement quelles sont les règles qui nous permettent de vivre ensemble. Ce serait quand même la moindre des choses.
Mais là, c'est pas ce qu'il a fait, précisément ?
C'est pas au détour d'un voyage entre deux caméras que, en lâchant trois phrases, on permet au pays de répondre et de comprendre.
Olivier Faure, vous prévoyez un discours justement sur ce thème de la laïcité. A priori, vous prendrez la parole au mois de décembre, c'est bien ça ?
S'il ne le fait pas, je le ferai.
Mais que comptez-vous
dire ? Et même s'il le fait, je le ferai.
Oui, voilà. Que comptez-vous dire et que voulez-vous annoncer au cours de ce discours, Olivier Faure ?
Eh bien, vous verrez à ce moment-là, mais je veux rappeler...
Non,
Je veux dire des choses simples. D'abord, dans ce débat, on a un premier débat qui est sur la laïcité. Et puis, on le confond malheureusement avec un autre débat qui est celui de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est un débat de nature différente. Ne faisons pas dire à la laïcité ce qu'elle ne peut pas dire. La laïcité, elle a pour objet de maintenir la liberté de croire ou de ne pas croire, elle est celle qui protège chacun d'entre nous et qui nous permet de vivre ensemble. Ensuite, vous avez un autre débat qui se greffe sur celui-là, qui est le débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Certaines femmes voient dans le port du voile, je parle de femmes musulmanes, parlent dans le port du voile une régression. D'autres, au contraire, ils voient...
Donc c'est un débat sur l'islam que vous nommez, en fait, puisque vous devez nommer les choses, que égalité homme-femme.
Si vous voulez qu'on nomme les choses, le débat sur la laïcité,
c'est un souhait, oui.
La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il porte principalement sur la place de l'islam en France. Arrêtons de nous dire des histoires. En fait, c'est essentiellement sur l'islam que porte le débat. Et même de manière de moins en moins subliminale, permettez-moi de le dire. Et donc, on a un débat qui est sur l'égalité femmes-hommes. Mais ce débat, il n'appartient pas qu'à l'islam. Enfin, regardez, vous êtes trois hommes à m'interroger. Pensez pas qu'il n'y avait pas une femme compétente pour m'interroger ce matin.
Il y en aura la semaine prochaine.
Sur le débat, femmes-hommes, Damien Fleurot, vous êtes à CNews. Est-ce que vous ne pensez pas que ce débat-là mériterait d'être relevé d'une autre manière qu'avec la présence d'Éric Zemmour chaque semaine sur votre
alors,
plateau?
Alors, vous pouvez débattre... Vous pouvez débattre face à Éric Zemmour si vous avez des arguments à lui opposer. On le sait que ses thèses ne sont pas les vôtres.
Vous pouvez effectivement débattre avec lui. Mais vous comprenez bien que si je vous parle de ça, c'est parce que quand on dit qu'il y a un problème sur l'égalité femmes-hommes et que c'est un combat à porter, mais quand vous avez quelqu'un qui est condamné pour incitation à la haine raciale, qui est un misogyne assumé,
pardon,
et qui
Olivier
chaque
Faure.
Semaine a le droit au chapitre dans
alors,
sur votre antenne,
Olivier Faure,
c'est forcément un sujet.
Une petite précision, vous avez dit ce que vous voulez dire sur CNews, mais ça, vous aurez l'occasion de le faire là-bas, puisque vous êtes invité. On ne peut pas non plus régler par une pirouette comme vous le faites les grandes questions qui sont posées, que vous avez évoquées vous-même en début de partie, c'est-à-dire la question effectivement de la laïcité, la question de la place de l'islam dans la société française. Est-ce que vous pouvez y répondre autrement qu'en jugeant comment une émission est composée ou un animateur organisé.
C'est pas pour juger, c'était pour dire qu'en réalité, on a cette capacité incroyable à laisser penser que tous les problèmes du monde sont issus de la communauté musulmane et que quand on a des problèmes soi-même, on a du mal à les regarder. Donc j'essaye de dire que ce problème-là, il est assez général.
Quand le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer, dit donc que la place du voile, enfin le voile n'est pas en soi souhaitable dans notre société... discours qu'on a pu entendre par le passé, hein, tenu par des responsables du Parti Social-Socialiste. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Surtout par Marine Le Pen, non. En fait, j'ai le sentiment que celle qui aujourd'hui dit qu'il faut éradiquer tout signe religieux de l'espace public, c'est Marine Le Pen.
Bah,
vous imaginez aujourd'hui que le curé à soutane ne pourra plus avoir sa soutane, que la bonne sœur ne pourra plus se déplacer, que celui qui a une kippa ne pourra plus la porter. Bon, c'est une conception. Mais attention à cette conception-là aussi, parce que moi, je n'ai pas d'action sur le foulard, ni sur la kippa, ni sur la soutane. Mais ce que je dis, c'est que partout, dans tous les pays, on a cherché justement à éradiquer de l'espace public tout signe religieux, tout signe de foi. Ben, ils sont revenus avec plus de force encore. Et je voudrais aussi porter témoignage de ce que je vis. Je vis dans une circonscription qui est une circonscription où la communauté musulmane est très importante. Et que sont ces femmes, y compris voilées? Ce sont des femmes qui sont syndicalistes. Ce sont des femmes qui sont aujourd'hui, qui tiennent les cafés philosophiques. Ce sont en fait, ce sont des gens qui se considèrent pleinement français et pleinement dans la République, qui ne posent aucune difficulté particulière. Ce sont des mamans qui sont à l'école et qui sont dans les syndicats de parents d'élèves et qui se battent pour que tous les enfants puissent avoir droit à une scolarité qui soit un facteur d'émancipation.
Alors,
c'est
pourtant,
ça que je vis.
Et pourtant, vous avez quelques individus qui
effectivement, aujourd'hui, commettent l'irréparable. Et au nom de ces quelques individus, on voudrait remettre en cause toute une religion
entend,
et des Français
de
confession musulmane.
C'est pas normal. On entend votre détermination, mais Nicolas Barré.
L'espace public, c'est une chose. Le service public de l'éducation, c'en est une autre, évidemment. Il y a une proposition de loi qui sera examinée la semaine prochaine, tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant à l'exercice du service public de l'éducation. Ce sera présenté par une sénatrice du Val-d'Oise. Sur quelle ligne êtes-vous sur ce sujet précis ?
Je vais vous poser une question. C'est est-ce que vous pensez vraiment qu'une femme qui tient la main à un enfant pour le faire passer le passage piéton, c'est une éducatrice ? Est-ce que vous pensez que quand il faut aller emmener les enfants à la piscine, c'est une éducatrice ? Est-ce que vous pensez que quand on va au théâtre avec des enfants et qu'on les aide à prendre le métro ou le RER, c'est une éducatrice.
Quand c'est organisé par
donc
l'école, est-ce que c'est pas...
C'est organisé par l'école. Dans ce cas-là, si vous dites que ça a un lien avec l'école, dans ce cas, il faut empêcher maman aussi de rentrer à l'école avec un foulard. Moi, je vois, quand j'emmène mes enfants à l'école, eh bien, il y a vraiment des foulards qui emmènent les enfants jusqu'à la classe. Est-ce qu'il faut leur retirer ce droit? Est-ce que vous pensez que vraiment cette...
Donc vous estimez que c'est à la communauté éducative, au directeur d'école ou aux professeurs, aux enseignants de rester
Je pense que si la laïcité, je pense que la laïcité, elle protège, et y compris les seuls usagers du service public qui sont avec une obligation de ne pas porter de signes distinctifs, ce sont les élèves. Pourquoi? Parce que c'est un moment dans leur vie où on considère qu'ils ont à apprendre ce qui nous est commun.
Qu'ils s'émancipent.
Et qu'ils aient possibilité de s'émanciper, y compris de leur milieu d'origine. Mais... Donc, ceux qui les accompagnent doivent être dans une stricte neutralité, pas d'accord. de prosélytisme. Donc, une maman qui accompagnerait au musée du Louvre et qui dirait « Tiens, cette salle-là, on saute parce qu'il y a des nus. » Là, effectivement, là, c'est une entrave, c'est une entorse à la laïcité. En revanche, si elle est là pour accompagner, comme cette femme en Bourgogne, qui vient accompagner ses enfants pour leur montrer comment fonctionne la République et la démocratie, mais... j'y vois au contraire un signe d'intégration et non pas un signe de sécession.
Très bien, mais donc pour être très clair, est-ce qu'il faut aujourd'hui changer des règles ou pas par rapport à ce qui existe sur l'éducation ?
Je crois avoir été suffisamment clair sur les accompagnatrices scolaires, je ne vois aucune raison de changer les règles.
Donc vous êtes sur la position du gouvernement et même d'Emmanuel Macron qui est de ne pas légiférer sur la loi.
Ça peut arriver.
Oui.
Alors, vous nous avez expliqué, oui, effectivement, et ça va arriver encore, j'imagine. Vous nous avez expliqué donc votre position, et pourtant, la société française réagit un peu de manière différente. Ce matin, dans le JDD, un sondage est publié, 61% des Français pensent, selon ce sondage, que l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française. 45% des électeurs socialistes également le pensent. Qu'est-ce que vous dites ?
Il m'arrive d'être minoritaire. Donc, je le suis certainement ce matin, au vu de ce sondage. Moi, je ne pense pas ça. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'on ne parle d'islam que pour, à chaque fois, en dénoncer les travers qui existent. Il y a dans l'islam des communautaristes, il y a dans l'islam des gens qui sont radicalisés. Et cela pose problème. Et cela doit effectivement être combattu, mais cela seulement. Et donc, pour tous les Français de confession musulmane, eh bien, je m'associe à leur souffrance parce que je pense que c'est dur pour eux aujourd'hui d'avoir en permanence le sentiment qu'on est jugé, qu'on est stigmatisé, qu'on doit rendre des comptes, alors que fondamentalement, ils sont comme vous et moi. Moi, je suis français, issu de deux cultures, ma mère est vietnamienne, et je me sens 100% français. Parce que ce pays est le mien depuis le premier jour. Et je n'ai jamais, j'ai été pour la première fois de ma vie, entendez-moi, pour la première fois de ma vie cet été au Vietnam. La première fois de ma vie, j'ai 50 ans. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on peut être pleinement avec des origines différentes, avoir une religion différente et être pleinement.
Qui est responsable,
français.
Selon vous, de cette incompréhension? Est-ce que, même parfois, quand dans des villes gérées par des socialistes pendant des années, on n'a pas laissé aussi s'installer, prendre le pouvoir pour des réseaux électoralistes, des associations communautaristes qui ont empêché, en fait, que la République puisse vraiment se développer dans ses valeurs? Est-ce que ce n'est pas aussi réflexion qu'il faut avoir et finalement ce bilan?
Si, bien sûr, il faut avoir... Et si vous me citez des cas concrets, moi, je serai intransigeant là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas avoir une logique qui s'apparente à une forme de clientélisme où on sous-traiterait aux salafistes ou à d'autres.
C'est bien ce qui a été fait quand même pendant des années.
C'est ce qu'a théorisé Nicolas Sarkozy quand il était au pouvoir.
Et Malek Boutti, chez vous également, votre parti, il a dénoncé.
Mais celui qui a théorisé ça, c'était Sarkozy, qui disait qu'effectivement, on devait sous-traiter à l'imam la sécurité dans les quartiers. C'est pas ce que je pense. Moi, je pense qu'on ne sous-traite à personne la sécurité dans les quartiers. Ça doit être effectivement la République qui se défende elle-même. Et se défendre, ça veut dire y compris ne pas... La stigmatisation dont on parlait à l'instant, c'est un sujet parce qu'elle a aussi pour effet de permettre à ceux qui cherchent à enrôler tous ceux qui se sentent humiliés. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut que la République fonctionne. Et c'est la promesse républicaine qu'il faut tenir. C'est le meilleur, la meilleure façon de combattre encore le communautarisme.
Ce matin, on comprend bien qu'effectivement, les mutations à l'œuvre sont cruciales. On continue à en parler dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Olivier Faure, déterminé à nous convaincre effectivement que les enjeux du moment sont très importants. On continue à en parler. Nicolas Barré.
Oui, le président de la République a appelé à une société de vigilance pour lutter contre l'hydre islamique. Alors, ça présente un tournant dans le discours, à défaut d'être très concret. Qu'est-ce que vous en dites ?
Sur la vigilance, moi je suis favorable à la vigilance, comme tout le monde. Mais tout dépend de ce qu'on appelle vigilance, si ça n'est pas la délation. Et si les signes de radicalisation ne sont pas ceux qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur. Quelqu'un qui ne se rase pas, pour moi, ce n'est pas un radicalisé, c'est un barbu. Quelqu'un qui fait la prière 5 fois par jour, ce n'est pas un radicalisé, c'est quelqu'un qui respecte les canons de l'islam. Quelqu'un qui a une
pratique... Ça, le gouvernement ne le
sait. Mais c'est ce que le ministre de l'Intérieur a dit lors de son audition à l'Assemblée. Il nous a dit, on lui a demandé quels sont les signes pour vous qui doivent appeler la vigilance.
Et donc
il nous a dit quelqu'un
qui ne
se rase plus, quelqu'un qui fait sa prière 5 fois par jour, quelqu'un qui a une pratique exacerbée de la religion pendant le ramadan. Mais qu'est-ce que le ramadan sinon une pratique exacerbée de la religion ? Donc si on tombe là-dedans, c'est non.
Alors par contre, quoi les signes de être vigilant pour vous ?
Par contre, être vigilant, c'est effectivement regarder, écouter. Quand quelqu'un commence à avoir de la sympathie pour Daesh, considérer que l'antisémitisme n'est plus un sujet, que, etc. Oui, là, il y a effectivement des évolutions personnelles qui doivent nous indiquer...
Il n'y a pas de corrélation entre parfois des gens qui ne veulent plus s'asseoir les uns à côté des autres, des hommes, des femmes, et ce genre de propos ?
Bien sûr, sans doute. Et c'est cette corrélation qui permet de se poser des questions sur la radicalisation, bien sûr. Donc, quand on a affaire à des gens qui se radicalisent, bien sûr qu'on doit les signaler, et y compris dans les familles, il y a des gens qui signalent, y compris leurs propres enfants ou leurs propres parents, parce que c'est d'abord les défendre d'eux-mêmes. Et donc, ça, c'est effectivement, j'y suis favorable. Pour le reste, attention à ne pas tomber dans une société où tout le monde dénoncerait tout le monde. Ce serait, enfin, en tout cas, j'incite toutes celles et ceux qui nous écoutent à ne pas aller dénoncer tous ceux qui ne se rasent plus.
Daniel Floreau.
On est à l'approche d'un scrutin, les municipales en mars prochain. L'exécutif dit qu'il n'essaiera pas d'interdire les listes communautaires. Ce n'est pas au gouvernement de décider qui a le droit de se présenter ou non. Vous êtes aussi sur cette ligne. On combat ces listes dans les urnes en faisant campagne sur le terrain uniquement.
Mais écoutez, c'est d'abord effectivement sur le terrain, dans les urnes, que ce combat portera. Parce que si le gouvernement ne peut pas agir en la matière, c'est que c'est très compliqué d'agir. Comment est-ce que vous définissez une liste communautaire ? Au moment où la liste est déposée en préfecture, est-ce que c'est sur la base de la consonance de ceux qui la composent ? Ce serait très discriminatoire. Après, on le sait quand on voit le projet. Si le projet s'adresse exclusivement à une communauté...
Il y a parfois des listes qui se travestissent à l'approche de municipale, mais dont on voit par le passé qu'il y a eu des propos, des actions.
C'est vrai, mais le problème, c'est qu'au moment du dépôt de la liste, vous ne pouvez pas en juger. Et donc... c'est vrai que ça pose difficulté et que personne dans la République ne devrait avoir un propos qui se limite à parler à une communauté. Et on voit bien qu'il y a un islam politique qui, lui,
on parle d'une cinquantaine de listes, et ça vous fait peur, ça vous inquiète ?
Il y a 36 000 communes, donc attendons avant la submersion. Mais on est dans une situation où il ne faut pas laisser cet esprit se propager et il y a un combat à mener, mais un combat qui doit se mener d'abord sur le terrain politique et rappeler effectivement ce que nous sommes ensemble et ce qu'est la République. Mais ça suppose aussi que les partis traditionnels fassent aussi place à ces gens d'origine arabo-musulmane ou d'autres communautés d'ailleurs. Parce que si nous avons des listes qui ne ressemblent pas aux populations qui doivent être ensuite dirigées, le risque, c'est qu'elles reportent et qu'elles trouvent refuge et qu'elles trouvent abri et que des gens trouvent prétexte à créer ces abris pour pouvoir justement faire rentrer ces gens dans le communautarisme.
Vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait des listes qui s'adressent à une communauté, mais alors vous faites quoi avec les listes qui défendent par exemple les chasseurs ou qui le parti animaliste ou, enfin, vous avez quand même des listes qui existent et qui défendent une communauté, une cause.
Alors, la communauté des animaux, c'est encore autre chose. Mais
les chasseurs, par exemple, vous faites quoi ? Vous dites qu'il ne faut pas de liste qui s'adresse à une communauté. Alors, il faut interdire la liste qui s'adresse aux chasseurs.
Je viens de vous dire exactement l'inverse. Je vous ai dit que c'était très compliqué d'interdire. Et donc, c'était d'abord un combat politique. Donc, j'en reste là. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller chercher a priori à condamner. Il faut, c'est difficile de le faire au moment du dépôt en préfecture, donc il faut le faire ensuite. Voilà, alors il faut le faire par le combat politique.
Olivier Faure, effectivement, les municipales donc, se préparent et on voit bien que les autres scrutins ensuite. Le vote protestataire, mesuré par maintenant les différents baromètres, est en essor. Les Français ne le rejettent pas, en fait. Hein. On commence à entendre même, d'ailleurs, du côté de la majorité, l'éventualité ou le besoin de créer un front républicain. Comment vous situez-vous par rapport à cette évolution ?
La ficelle est un peu grosse, non ? Quand même, on a là un chef de l'État qui a compris une chose, c'est qu'il est champion du monde, mais à une seule condition, c'est qu'il est toujours le même compétiteur. Et ce compétiteur, c'est Marine Le Pen. Et donc, dans tous les scrutins désormais, on nous dit, c'est en fait Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Mais vous aurez observé que sur les municipales, par exemple, s'il y a bien deux partis qui sont quasi absents sur tout le territoire des communes, c'est le Front National et c'est La République En Marche. Et donc, pourquoi voudrait-on poser ce débat-là comme le débat principal et central, si ce n'est pour continuer ce duo que forment Marine Le Pen et Emmanuel Macron?
Parce qu'il est aussi posé quelque part parmi vos propres troupes. Regardez dans son dernier livre, Jean-Christophe Cambadélis, dans le Dîner des Présidents, dit « Marine Le Pen peut l'emporter en 2022 ». Alors, on aime jouer à se faire peur au PS ou c'est une réalité politique qu'il faut combattre et s'organiser pour...
Non mais, par nature, tout le monde peut gagner. Simplement, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, notamment sur les municipales, puisque c'était la question que vous me posiez, je ne vois pas très bien pourquoi il faudrait faire du Front National l'adversaire principal, central, etc., le remettre en majesté pour ensuite expliquer qu'il faudrait faire des fronts républicains partout. Non, il n'y a pas besoin de fronts républicains partout. Ça peut exister, il y a des endroits où ça se justifie, puis il y a des endroits où ça ne se justifie pas du tout, parce que le Front National n'est pas très implanté. Et donc, il faut maintenant sortir de ce débat, et c'est la raison pour laquelle je me bats depuis un an et demi que je suis Premier secrétaire, pour justement faire émerger un autre pôle. Un pôle qui associe la gauche et l'écologie. C'est tout simplement parce que ce pôle-là, il est potentiellement majoritaire devant le Rassemblement National et devant La République En Marche. Et donc, il y a une forme de folie de notre part à continuer dans la division, alors que nous pourrions rassembler, être largement devant tout le monde et ne plus se poser la question de savoir s'il faut faire
alors,
des fronts et des barrages.
Ça s'appelle justement Damien Fleurot.
Justement, Olivier Faure, vous étiez en déplacement à Fos-sur-Mer. Hein. Vous vous dites totalement investi sur cette question de la santé environnementale, lutter contre les pollutions. Vous nous parlez d'une écologie de gouvernement, une écologie raisonnable, mais on le voit, et notamment les plus jeunes, se tournent vers ces mouvements de défense de l'écologie, mais qui sont très radicaux. Il y a encore une écologie de gouvernement possible ?
Alors, moi, je n'ai jamais utilisé cette expression d'écologie de gouvernement.
Non, on la soumet.
Pas très bien.
De responsabilité ou de...
Il faut une écologie qui soit aussi une écologie soutenable sur le plan social. Voilà ce que je défends. Et à Fos-sur-Mer, c'est un très bon exemple. Fos-sur-Mer, c'est une commune ouvrière, 16 000 habitants, qui est née, en fait, dans les années Pompidou, parce qu'il fallait assurer l'indépendance énergétique de la France. Et donc, se sont multipliées les usines, qui sont des usines très polluantes. 15 sites Seveso dans cette commune. Et donc aujourd'hui, un taux de cancer qui est deux fois plus élevé dans cette commune que partout ailleurs en France. Et je suis allé soutenir notamment le maire, ses avocats et puis les associations qui ont porté plainte pour, alors d'abord, pour mise en danger de la vie d'autrui, contre les entreprises, et puis, si rien ne se passe, aussi pour carence fautive de l'État. Parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait des territoires où... où la pollution n'est plus un sujet et où on s'est habitué à l'idée que finalement, c'est pas grave. Ils sont pauvres, ils n'ont pas d'autre choix que la bourse ou la vie, et donc ils choisiront toujours la bourse parce que pour vivre, il faut aussi l'argent. Et donc, c'est un sujet. Et donc, moi, j'associe pleinement, complètement, intégralement ces deux questions-là. Quand inversement, vous dites que ça doit se faire, enfin que c'est l'écologie radicale, comme vous dites, mais qu'elle ne tient pas compte de la question sociale, on voit bien que c'est le rejet immédiat, parce que l'impératif immédiat pour tout le monde, c'est quand même la fin du mois. Et donc, il faut éviter de séparer fin du mois et fin du monde. Alors, et c'est ce que je défends.
C'est un aspect, effectivement, des négociations que vous allez mener ou que des discussions que vous avez avec les écologistes. Vous avez également une autre discussion, hein, puisque vous êtes apparemment en discussion également avec le Parti communiste pour notamment continuer à être présent dans une logique d'accord mutuel dans les villes donc, de plus de 100 000 habitants. Vous avez des enjeux à Rouen, Brest, Le Mans, Strasbourg, Avignon, et on en parlera bien sûr à Paris. Est-ce que ces négociations, vous les confirmez ? Est-ce qu'elles vont aboutir, selon vous ?
Oui, bien sûr, je les confirme. Elles ne sont pas secrètes.
Non, mais c'est bien d'en parler.
Oui, oui. Oui, je le confirme. Je confirme même que je souhaite, en fait, les accords les plus larges possibles dans toutes les villes de France, qui associent, encore une fois, l'ensemble des forces de gauche et les forces écologistes, parce qu'ensemble, nous avons la capacité à être le premier pôle dans la vie démocratique française. Et que personne aujourd'hui n'est en capacité de gagner seul. Et donc, ça suppose un peu de raison, y compris d'abord pour entendre les gens qui ont besoin de nous et que ce n'est pas l'égoïsme partisan qui fera avancer.
Vos stratégies n'ont pas toujours été gagnantes. Nicolas Barré.
Au fond, est-ce que ça n'avait pas été un peu une erreur d'abandonner la tête de liste aux dernières européennes à place publique quand on fait le bilan 6 mois après? Qu'est-ce que ça a apporté au Parti Socialiste?
Mais vous y voyez une erreur, j'y vois une première marche. Je n'ai pas m'arrêté. Vous ne croyez pas que...
Ça a apporté quoi au PS?
Mais ne croyez pas que je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a voulu démontrer dans cette élection? C'est que nous étions non pas seulement responsables d'un parti politique. Ben, c'est bien. Et ça devrait être la préoccupation première de tout premier secrétaire. C'est ma préoccupation. Mais, je me sens responsable d'autre chose, d'un camp politique. Et ce camp politique, il comprend toute la gauche et l'écologie.
Pourquoi je dis ça ? Mais tu n'arrives pas à s'additionner aujourd'hui.
Mais pourquoi je dis ça ? Parce que si on était simplement à vouloir défendre étroitement nos intérêts et que chacun faisait de même, mais on connaît la suite du film. La suite du film, c'est que nous n'avons pas de mairie, nous n'avons pas de département, pas de région, et qu'à la présidentielle, le deuxième tour, c'est effectivement Macron-Le Pen.
Mais ça a vraiment élargi votre camp, cette alliance avec
mais
place publique.
Nicolas Barré, ne vous faites pas plus sourd que vous ne l'êtes. Je viens de vous dire que c'était une première marche. Une première marche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en aura d'autres.
Ça veut dire qu'on va trébucher sur la première marche, dites-le. Vous pouvez le reconnaître. Personne ne reconnaît que ça a été un succès autour de vous.
Ça n'était pas un succès, ça n'était pas non plus un échec. Vous nous aviez prévu sous la barre des 5%, on a fait 6. Donc ça n'est pas extraordinaire, mais c'est une première marche et je compte bien continuer. C'est-à-dire continuer à nous ouvrir. Regardez ce qui se passe sur les municipales, regardez ce que fait Anne Hidalgo à Paris, regardez
quel est votre objectif pour les municipales.
Joanna Roland à Nantes, ce que fait Nathalie Appéré à Rennes.
Quel est votre objectif pour les municipales?
Mais l'objectif, c'est d'abord d'être ouvert. L'objectif, c'est d'avoir des listes qui soient composées de gens qui viennent de la société civile, qui viennent de l'ensemble de la gauche et de l'écologie.
Et au risque de sacrifier les jeunes pousses et les jeunes militants dans votre parti, parce qu'ils s'inquiètent aussi. Ils disent, on voit arriver des têtes chenues, connues, et nous, on travaille et on n'est pas sur les listes.
Il faut un équilibre entre toutes ces forces, et y compris les socialistes, si c'est ça la question que vous me posez. Il ne s'agit pas de dire qu'il faille sortir les socialistes des listes pour leur substituer d'autres. Mais il faut s'élargir. Et pour s'élargir, ça suppose effectivement qu'on fasse de la place à d'autres. C'est difficile. C'est un choix qui est parfois un choix qui peut être vécu comme sacrificiel, mais je le soutiens. Parce que je considère que notre responsabilité, c'est précisément celle d'un camp politique. On ne fait pas de la politique exclusivement pour avoir plus de permanents ou avoir plus d'un parti avec de plus beaux locaux, etc. Non, on fait de la politique pour que les choses avancent. Pour qu'elles avancent, il faut gagner. Pour gagner, il faut s'élargir, il faut rassembler. Et moi, je ne suis pas de ceux qui sont là simplement pour porter témoignage. C'est bien le témoignage, mais je ne suis pas uniquement dans la résistance. Je suis pour l'action. Vous avez dit tout à l'heure, parti de gouvernement. Oui, je revendique le fait d'être un parti de gouvernement. Donc des gens qui veulent agir, parce que si vous avez un modèle français qui est celui que vous connaissez aujourd'hui, c'est précisément parce que nous avons gouverné ce pays pendant de longues années.
Alors on va continuer à graver les marches de l'escalier. On se retrouve dans quelques instants.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et Olivier Faure dans l'escalier pour 2022. Nicolas Barré.
Olivier Faure, quand vous regardez la scène politique actuelle, votre camp, si vous deviez citer une figure socialiste, ce serait qui?
Mais j'en citerai beaucoup. Il y a beaucoup.
Non, mais une. On savait que vous diriez ça. Une.
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas.
Je citerai le nom d'un militant ou d'un militant ou d'une militante. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des figures. Ce sont des figures qu'on néglige, qu'on méprise souvent, mais qui sont celles qui font vivre le PS aujourd'hui. Donc, vous voulez me faire choisir entre entre gloires actuelles. Oui. Et donc, je préfère vous dire que nous nous sommes tellement souvent posé la question du qui que nous en avons presque oublié la question du pourquoi. Et moi, je voudrais commencer par pourquoi, et ensuite, nous penserons à qui.
Vous parlez de gloires actuelles, vous pourriez citer...
Beaucoup de monde.
Par exemple?
Par exemple, la maire de Paris, qui a... Vous la soutenez officiellement, Hidalgo, qui est quand même
partie? Je la soutiens totalement. Je soutiens Joanna Roland, je soutiens Nathalie Appéré, Cécile L. à Avignon... Olivier Bianchi à Clermont-Ferrand, vous voulez que je continue à lister?
Donc non, vous ne citez pas François Hollande, vous ne citez pas Bernard Cazeneuve, vous ne citez pas...
Je peux citer François Hollande, je peux citer Bernard Cazeneuve, je peux citer Christiane Taubira, je peux citer Najat Vallaud-Belkacem, je peux citer Boris Vallaud, je peux citer...
Donc vous pouvez citer tout le monde,
Valérie
on l'a compris. Maintenant, regardez, il y a un nouveau courant, vous avez un nouveau courant au sein de votre parti, maintenant c'est le courant des non-candidats utiles. Écoutez, Bernard Cazeneuve, la semaine dernière, sur CNews Sans Détour.
J'ai envie d'être utile, j'ai envie de dire ce qui me paraît juste et ce à quoi je crois. Je ne pense pas avoir jamais manqué au mien, mais je n'entends pas pour autant me laisser aller à l'air du temps et faire n'importe quoi. Si je peux contribuer à faire en sorte D'accord. que la gauche retrouve Témoin. Un chemin, Témoin. Je le ferai.
Voilà, donc non candidat, mais utile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles sont les idées, Bernard Cazeneuve ? Il vous en parle ?
Je dirais même plus qu'utile, Bernard Cazeneuve, précieux. Parce que il est un homme à l'expérience ministérielle féconde. Il a été un grand ministre partout où il est passé, des affaires européennes, budget, intérieur, Matignon, trop peu de temps. Et donc, il fait partie des atouts, des piliers sur lesquels nous pouvons effectivement nous adosser.
Plus que François Hollande ?
Mais François Hollande apporte une expérience. Il a été président de la République pendant 5 ans. C'est assez inestimable aussi. Et donc, dans son désir de transmission aujourd'hui... je pense qu'il peut être aussi très utile.
Il a... Alors justement, François Hollande fait parler de lui. Il publie un livre, notamment sur le fonctionnement de notre système démocratique. Vous l'avez lu, vous jugez utile ces propositions qui n'ont pas beaucoup fait débat au sein même de votre famille politique ?
Mais je n'ai pas encore lu le livre, pour tout vous dire. Mais je sais quelle était l'intention de celui qui a été interrogé, François Hollande, débriefer un ancien président sur son expérience et donc essayer de comprendre...
Responsable de Terra Nova, en l'occurrence.
Voilà, essayer de comprendre, en fait, ce qui avait été un obstacle ou ce qui pouvait être l'objet de réformes. Bon, j'entends les pistes qu'il énonce sur l'allongement du mandat présidentiel. Honnêtement, ce n'est pas à proprement parler ce par quoi j'aurais commencé. Je pense que aujourd'hui, les Françaises et les Français, et même plus largement, puisque tout à l'heure on a évoqué le vaste monde, la première question qui est posée, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour que la participation de tous soit plus évidente. Comment est-ce qu'on comble ce fossé de défiance entre le monde politique et le monde citoyen.
Vous dites propositions éventuellement intéressantes, mais pas dans calendrier, pas dans le bon tempo.
Ce que je retiens, c'est qu'il y a une évolution de la part de François Hollande qui maintenant souhaite lui aussi... réformer la Ve République, qui est une République un peu à bout de souffle et qui doit trouver un nouvel essor. Simplement, là, ce que je dis, c'est que plutôt que de chercher exclusivement à savoir comment exercer le mandat présidentiel, la première question, celle que nous ont posée les Gilets jaunes depuis un an, c'est comment est-ce qu'on fait pour associer le grand nombre ? Comment est-ce qu'on fait pour que chacun se sente partie prenante, revenons au municipal, comment est-ce qu'on fait pour que, comme à Paris, il y ait un budget participatif, comme à Rennes, il y ait un budget participatif ? Voilà des exemples de ce qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on fait pour que les Français aient le plus souvent la parole ? C'est ce que nous faisons sur ADP, quand nous voulons donner aux Français la possibilité de choisir s'il faut ou non privatiser ADP. Voilà là des questions qui me paraissent fondées et qui permettent de répondre aussi à l'attente du plus grand nombre.
Olivier Faure, il n'y a pas un responsable socialiste ou un élu socialiste qui ne rencontre François Hollande qui ne sort pas absolument convaincu du fait qu'il veuille retenter sa chance pour l'Élysée. Ça vous aide ou ça vous gêne ?
Oh ben, ce qu'il dit aux uns et aux autres ne me gêne pas. En fait,
non, mais là, cette perspective-là.
Mais on verra bien le moment venu qui sera en situation. Et moi, j'ai plutôt le sentiment... Alors, vous me dites que vous avez, vous, des confidences que je n'ai pas. Donc, moi, j'ai plutôt le sentiment que François Hollande a compris et qu'il est en train de chercher à transmettre son expérience.
N'est pas en pré-campagne.
A compris quoi ?
C'est comme ça que je le vois. J'ai l'impression que, y compris en ce livre que vous citez, il dit à ceux qui viendront, écoutez, moi, voilà sur ce quoi j'ai buté. Et donc, je pense qu'il faut faire telle ou telle réforme. Et de ce point de vue, il peut être effectivement utile parce que ça n'est pas rien d'avoir gardé le pouvoir pendant 5 ans dans
un grand pays. Il met à sa place ancien président, pas plus.
Il est un ancien président, oui.
Comment est-ce que là où le candidat ou candidate en 2022 doit être désigné ? Est-ce qu'il y aura des primaires ?
Votre parti.
Est-ce que vous serez candidat vous-même, d'ailleurs ?
Comment il doit être... enfin, aujourd'hui, on a des statuts qui sont clairs, qui disent qu'il y a des primaires. Et donc, il est censé y avoir des primaires... le moment venu. Est-ce que ce mode de fonctionnement est celui qui est le plus approprié pour la prochaine fois ?
On ne vous sent pas complètement convaincu.
Je ne suis pas complètement convaincu.
Donc vous dites là ce matin que ça pourrait avoir de primaire au sein du PS pour désigner
non,
le candidat 2022 ?
Non, je dis qu'il y a des statuts et donc je suis respectueux de mes propres statuts. Mais c'est vrai que je ne suis pas complètement convaincu par un processus qui n'a pas conduit la deuxième fois à un résultat très probant. Et donc, je m'interroge. Mais
donc, vous allez solliciter les militants peut-être pour réformer ces statuts.
Pour l'instant, je ne sollicite personne. Vous me posez une question, j'essaie de vous répondre froidement et sincèrement. Et donc, je vous dis, ce n'est pas forcément le Graal.
Le meilleur moyen.
Mais en attendant, on n'a pas trouvé de meilleur moyen non plus. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé de meilleur moyen, c'est celui-là qui s'impose.
Alors, puisque vous parlez honnêtement et sincèrement, est-ce que vous serez, vous, candidat en 2022 pour l'élection présidentielle?
Alors, comme je viens de passer à peu près 5 minutes à essayer de vous expliquer que la question du qui était une question qui m'était indifférente et que la seule question qui m'importait, c'était la question de pourquoi faire, je vais vous répondre. Je veux savoir, moi, mon boulot, comme premier secrétaire, c'est de dire, d'amener les gens à se battre sur des sujets qui leur soient communs. On a tellement vécu de divisions. Enfin, la première raison pour laquelle les Français nous ont trouvés insupportables, c'est d'abord parce qu'ils nous ont vu nous déchirer semaine après semaine, jusqu'à ne plus comprendre ce qui nous unissait encore. Moi, ça fait un an et demi que je retisse patiemment les fils de cette maison pour que nous puissions nous retrouver, nous parler, travailler ensemble et aboutir à des objectifs
avec
communs.
Avec un nombre limité de militants, si vous voulez aussi élargir à cette alliance à toute la gauche.
Oui, bien sûr, je vais élargir.
Cette maison doit être la même que lors de la dernière présidentielle.
Elle doit évoluer.
Est-ce que le Parti socialiste a encore un avenir dans cette forme actuelle?
Cette maison doit évoluer, comme toutes les maisons. Aucune n'est adaptée au temps d'aujourd'hui. Au fait,
changer de nom, changer de structure.
Je ne sais pas si c'est la question. D'abord, le fonctionnement. Nos fonctionnements respectifs aux uns et aux autres sont datés. Nous sommes des partis qui avons été constitués au début du XXe siècle et qui n'ont pas évidemment anticipé l'intervention du numérique, qui n'ont pas non plus anticipé ce qu'est cette formidable évolution grâce à l'éducation, avec des citoyens mieux formés, plus éduqués, avec une information en continu qui leur permet aussi de se forger un avis au-delà même des partis politiques. Et donc, nous devons en tenir compte. Et il faut certainement, pas certainement, il faut de manière certaine bouleverser nos fonctionnements, avoir des partis qui soient à la fois plus ouverts sur le monde, qui soient aussi capables de mixer des envies, des désirs qui ne peuvent pas être les mêmes. On n'a pas tous envie de coller des affiches ou de distribuer des tracts. On peut avoir envie de donner des idées et puis seulement sur un sujet, etc. Et donc, il faut certainement mixer les possibilités de militer. Et je souhaite qu'au lendemain des municipales, nous nous attelions à cette tâche et que nous ayons en tête le fait que nous ne pouvons pas continuer comme aujourd'hui et que nous devons être nous aussi en révolution permanente.
Alors justement, Olivier Faure, parce qu'on disait aussi un petit peu en début de cette émission, ceux qui vous connaissent, ceux qui voient un peu la pratique de votre fonctionnement, ils savent que vous savez aussi garder vos cartes jusqu'au dernier moment. Quand on parle avec des responsables de votre parti, la question qu'on nous pose, c'est on dit pourquoi ils ne clarifient pas clairement avec Emmanuel Macron. Vous avez un soupçon dans votre parti d'un jour conclure un accord avec Emmanuel Macron pour en représenter le pôle gauche de cette Macronie. Est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire si vous signerez un jour un accord ou pas?
Je vais vous répondre très franchement et très clairement. Mais je vais commencer par vous parler de ce fameux pôle gauche. En fait, j'ai bien vu qu'on essayait de faire naître un pôle gauche dans la majorité. C'est d'abord un aveu formidable qu'il n'existe pas pour l'instant de pôle gauche.
Il y a des anciens ministres socialistes au gouvernement.
Il y a un effort aujourd'hui pour faire un peu ce que font les mauvais agents immobiliers. Vous savez, les agents immobiliers véreux, c'est prendre en fait de la peinture pour pouvoir essayer de vendre une ruine. Eh bien, on a effectivement aujourd'hui le même sentiment avec des Français qui ne peuvent pas être dupes. On a des gens qui voudraient repeindre en gauche ce qu'est une politique de droite. Et donc, ça permet de répondre à la question que vous m'avez posée. Est-ce que je suis prêt à un accord avec Emmanuel Macron? La réponse est absolument non. Non, non et non. L'avenir, pour moi, il se situe dans le rassemblement de la gauche et de l'écologie pour offrir une alternative à ce qui est aujourd'hui, en fait, le dernier carteron de néolibéraux dans notre pays, avec des gens qui, finalement, assument avec 30 ans de retard, ce que Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont déjà initié dans leurs pays respectifs. Et donc, je veux, moi, m'inscrire dans un rassemblement qui est aussi clair que celui que je viens d'indiquer.
Merci beaucoup. C'était le grand rendez-vous d'Olivier Faure.